Elle attendait avec impatience l'arrivée de sa tante, le dimanche midi qui signalait la diversion salvatrice. Et le dimanche soir, quand elle reprenait ses quartiers chez ses grands-parents, elle respirait. L'épreuve était finie. Elle renouait avec la vie ordinaire, à l'abri. Excellente élève, elle était appréciée tant des professeurs que de ses condisciples. Bonne camarade, on ne lui connaissait pas d'ennemis ni d'amitié paroxystique. C'était une fillette équilibrée qui cachait bien sa blessure. Même si cela ne procédait d'aucune préméditation, cela l'arrangeait de ne pas avoir d'amis véritables. Elle avait observé les mœurs de cette engeance. On se confiait, on allait dormir les uns chez les autres, parfois on allait jusqu'à pleurer dans les bras de l'élu. Diane aimait d'autant moins ces pratiques qu'elle ne pouvait pas se les permettre. Comment aurait-elle pu avouer son secret à qui que ce soit? Son grand-père tentait parfois d'aborder la question avec elle. « Tu sais, ta mère était une enfant capricieuse. » À l'école, elle n'avait pas de bonnes notes et elle recevait des observations pour son attitude dissipée. À la maison, elle pouvait bouder pendant des heures sans qu'on comprenne pourquoi. « Comment veux-tu qu'elle se reconnaisse en toi, qui est la première de la classe, qui sourit tout le temps et que tout le monde aime ?» Diane ne répondait pas. Pouvait-il y avoir une explication à sa souffrance? Sa mère n'était pas consciente de sa cruauté. Elle semblait persuadée d'être une mère excellente. Marie avait ce trait des gens ordinaires de proclamer des insanités telles que « Moi, vous me connaissez, je veux être juste. » Ou « L'amour de mes enfants passe avant le reste. » La fillette l'observait quand elle se lançait dans ce genre de déclaration. Sa mère croyait ce qu'elle disait. En son fort intérieur, Diane pensait que les gens étaient fous. Pour des motifs mystérieux, ses grands-parents échappaient à la démence collective. Elle avait fini par trouver que même son père et son frère y participaient. Son père ne voyait rien de pathologique à l'attitude maternelle, et son frère s'en accommodait. Quant aux autres, certes, ce n'était pas leurs affaires, mais comment pouvait-il ne pas s'étonner de cette femme qu'en dehors des horaires scolaires, on ne voyait jamais sans Célia? Olivier s'était contenté de dissuader son épouse de porter continuellement dans ses bras une enfant de 4 ans. « C'est mauvais pour ton dos, ma chérie. » Au fond, Diane regrettait que sa mère ait tenu compte de cette remarque. Si elle avait continué à porter en public une fillette trop âgée, on aurait pu détecter la pathologie de son comportement. À croire que mamie lisait dans ses pensées, elle eut ce propos. « Qu'est-ce qu'on peut faire? Ta mère n'est pas assez dérangée pour qu'on intervienne. Ce n'est pas une bonne mère pour toi, ni pour Célia. La loi ne peut rien contre ça. » D'autant que Nicolas servait de certificat de santé. Avec lui, Marie se conduisait comme une mère normale, affectueuse et modérée. Comment aurait-on pu qualifier de toxique un milieu familial qui avait engendré un garçon à ce point équilibré? Le vendredi soir, quand Diane rejoignait sa famille, son père lui sautait au cou et l'appelait « ma princesse ». Son frère l'embrassait et lui montrait ses nouveaux trésors, baskets, bandes dessinées, Duplo. Sa mère se contentait de marmonner « tiens, tu es là, toi » et continuait son chemin escorté de son satellite, Célia. Celle-ci vénérait sa sœur, mais n'osait pas le montrer en présence de maman. Quand Diane interrogeait Nicolas, elle se contentait de hausser les épaules. « Maman est timbrée avec Célia, c'est tout. Pour le reste, ça va. »« Qu'est-ce qu'elle dit sur moi en mon absence ?»« Elle ne parle jamais de toi. » Quand Célia eut 6 ans, Olivier décréta qu'elle ne pouvait plus dormir dans la même chambre que ses parents. On l'installa dans la chambre de Diane, au lieu désormais de lit. Diane fit la tête quand elle fut mise devant le fait accompli. La première nuit avec Célia fut éprouvante. D'abord, il fallut subir les adieux de Fontainebleau entre maman et fifille.
« Non, ma chérie, je ne t'abandonne pas. C'est seulement la nuit, ça ne dure pas longtemps. Tu es grande maintenant. Tu ne peux plus dormir avec papa et maman. Ta grande sœur veille sur toi. »
Le tout décliné une dizaine de fois avec autant de larmes chez l'enfant que chez la mère. Olivier finit par chercher son épouse en affirmant qu'il fallait laisser dormir les petites à présent. Faut-il préciser que Diane n'eut droit à aucun bonsoir de maman? À peine furent-elles seules que Célia se précipita dans le lit de sa sœur.
« Maman a dit que tu devais veiller sur moi. Fiche-moi la paix, je dors. Je vais hurler, maman va te gronder.
Vas-y. Éblouie par cette fermeté qui lui était inconnue, la petite sœur étreignit la grande.
Je t'aime, Diane.
Qu'est-ce qui te prend?
Pourquoi tu n'es pas là la semaine?
Je t'aime tellement.
Je veux mieux quand tu es là.
N'importe quoi.
Si, c'est vrai. Maman m'aime trop. Elle me laisse jamais tranquille.
Tu adores ça et tu en redemandes.
Je ne sais pas quoi faire.
Diane sentit de la vérité dans cette parole et se tourna vers sa sœur. Tu dois lui dire que ça ne va pas.
Mais j'aime maman.
Bien sûr. Justement, tu dois le lui dire parce que tu l'aimes. Tu dois lui dire qu'elle doit te laisser tranquille, qu'elle te rend malade avec ses bisous, qu'elle t'empêche de grandir.
Dis-lui, toi.
Si c'est moi qui le dis, elle ne comprendra pas. Il faut que ça vienne de toi.
Je le dis quand?
Quand tu seras seule avec elle. Et maintenant, retourne dans ton lit.
S'il te plaît, je peux dormir auprès de toi?
Bon, rien que cette nuit alors. La petite se pelotonna contre la grande. Diane ne put se défendre d'un attendrissement. Il fallait reconnaître que Célia était adorable. Elle s'endormit en l'enlaçant. Le lendemain, quand leur mère appela Célia pour lui donner son bain, Diane soupçonna que sa sœur choisirait cette occasion pour lui parler et se cacha derrière la porte.
« Maman, tu dois me laisser tranquille »,
entendit-elle.
« Que dis-tu, ma chérie ?»
demanda Marie d'une voix alarmée.
« Tu dois me laisser tranquille. Tu me rends malade avec tous tes bisous. »«
Tu n'aimes pas mes bisous ?»«
Si, mais il y en a trop. »«
Pardon, ma chérie »,
répondit la mère au bord des larmes. Diane retint son souffle. Cela avait donc marché? À cet instant, elle entendit
« C'est Diane qui m'a dit de te le dire. »«
Ah, je comprends. Ta sœur est jalouse, tout simplement. »«
Pourquoi elle est jalouse ?»«
Parce que je ne lui donne pas autant de bisous qu'à toi, ma chérie. »«
Et pourquoi tu ne lui donnes pas autant de bisous qu'à moi ?»«
Parce qu'elle est froide. Elle l'a toujours été. »
Est-ce que mes bisous te dérangent vraiment?
Non, maman, je les adore.
La grande sœur, qui en avait assez entendu, s'en alla décomposée. Elle s'assit sur son lit en pensant
« Jalouse, moi. Le monde à l'envers. Et si je suis froide avec toi, maman, c'est parce que tu m'as forcée à le devenir. »
À 11 ans, Diane sentit son univers s'effondrer. Jusqu'alors, si elle avait pu tenir, c'est parce qu'elle croyait sa mère inconsciente de sa souffrance. Et là, elle découvrait que dans la version maternelle, c'était elle la coupable de l'absence de tendresse qui lui était adressée. L'accusation de jalousie relevait du comique, comparée à celle-là. Comment allait-elle continuer à vivre étouffée qu'elle était, par le sentiment d'une injustice démentielle? Elle passa le reste du samedi comme un automate. La nuit, Célia la rejoignit dans son lit. Diane ne bougea pas.
« J'ai parlé à maman. »«
Je sais, j'ai entendu. »«
C'est mal d'écouter aux portes. »«
Tu as raison. »« Va me dénoncer à maman. »«
Elle a dit que je suis au courant. »«
Tu es une idiote, Célia, d'avoir dit que ça venait de moi. »« Tu as menti. »« C'est toi qui t'es plainte à moi. »« Je n'aurai plus jamais confiance en toi. »«
C'est quoi la confiance ?»
C'est ce que tu ne m'inspires pas. Retourne dans ton lit. Célia s'exécuta en pleurnichant. Diane avait conscience d'être dure. Qu'est-ce qu'une gosse de 6 ans pouvait comprendre à cette affaire? Mais elle souffrait tant que le sort de sa petite sœur l'indifférait.